Mi piace anche essere.
Honnêtement, je suis surpris du climat des apparitions de ressuscité. Il y a une grande simplicité. Aujourd'hui, c'est Jésus qui cuisine. On est surpris parce que d'habitude, c'est Jésus plutôt qui se fait inviter. Chez Marc et Marie, même dans le cénacle, il y a une pièce pour pouvoir y célébrer la Pâque, mais là, c'est lui qui l'invite. Et puis, il y a cette espèce de cette simplicité de Pierre qui est tout nu, qui jette à l'eau comme ça. Ça ne fait pas très digne pour la société de notre Dieu. On aurait besoin d'un peu plus de dignité, un barbecue, et puis voilà, une partie de pêche. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a finalement une grande familiarité. Il y a un climat d'enfance, si on peut dire. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans tout cela. La première chose, effectivement, c'est la simplicité des apôtres. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Pierre reçoit un conseil. On n'a rien trouvé à pêcher toute la nuit. Et puis on rencontre un inconnu qui leur dit, jetez le filet à droite, c'est un inconnu. Et Pierre, ben, il va, lui qui était plutôt tête dure, c'est le moins qu'on puisse dire, et ben là il accepte. Il a comme été désarmé. Et puis, un peu plus loin, ces gens qui reconnaissent le Seigneur, lui, il n'a pas reconnu, mais tout de suite il fait confiance à Jean et il jette à l'eau. Une confiance dans les autres, une humilité, un cœur de chair, un cœur d'enfant. Voilà, je crois, le fruit de la grande secousse de la croix. On sait bien que dans nos vies, c'est souvent comme ça. Quand on a des grandes épreuves, on apprend à relativiser toutes nos mesquineries, toutes nos petites suffisances. Voilà que les apôtres ont été sacrement secoués par la mort, la passion de notre Seigneur, et ils ont comme fait un pas de plus vers ce que c'est être fils, être enfant de Dieu. Et puis, comme je le disais, Jésus les invite ensuite. Là aussi, pourquoi est-ce qu'il fait ça? En réalité, Jésus veut les confier finalement à la joie du ciel, c'est ça que ça veut dire. Quand il invite les apôtres qui sont là à partager ces quelques morceaux de poisson qu'il a fait griller, eh bien c'est cela, venez, entrez dans la joie du ciel. Il y a quelque chose de très étonnant dans l'apparition du ressuscité. Tout le monde a pu voir le Christ qui souffrait sa passion et qui est mort sur la croix. Mais ce n'est pas tout le monde qui a pu voir le Christ ressuscité. Ce sont les élus, ce sont les choisis, simplement. Jésus ne se manifeste qu'à ceux qui l'aiment. Ne se manifeste qu'au cœur de bonne volonté. Alors, ce sont des pauvres pécheurs, mais un déclic en eux s'est fait. Un choix s'est opéré, et ce choix, c'est la croix qui l'a fait. Il sera un signe en butte à la contradiction, grâce à qui le cœur de bien des hommes sera révélé, avait dit Siméon. Voilà. Il y a d'un côté ceux qui acceptent très pauvrement de vivre le ressuscité, et puis ceux qui s'endurcissent, ceux qui déclarent que son corps a été volé, ceux qui font des machinations pour éviter que la bonne nouvelle ne se répande. Voilà, parce que justement, ces apparitions du ressuscité anticipent le ciel, anticipent cette société où le mal, le péché, le malheur ne pourront plus entrer. C'est quelque chose qui donne effectivement un climat absolument unique à ces apparitions et qui rend la petite société des apôtres profondément attirante. On a envie d'y être, on a envie d'en être. Participer à ce banquet messianique, ces quelques morceaux de poisson partagés, Eh bien, il faut accepter quelque chose. Il faut accepter la seigneurie du Christ dans sa vie. Il ne s'agit pas simplement de se laisser charmer par un beau paysage pour du lac de Galilée, par une bonne nourriture, certainement. Non, il faut accepter la seigneurie du Christ. C'est-à-dire lui soumettre toute sa vie. Cela signifie que Jésus est vraiment le Seigneur de nos vies. Il est capital que nous lisions également en ce temps pascal les lectures du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on nous présente? Il nous présente cet agneau, agneau de Dieu, mais qui est acclamé, devant qui on jette ses couronnes pour les 24 anciens comme ils le font. Que l'on chante, que l'on acclame, que l'on proclame victorieux, à qui l'on veut la puissance et la gloire. C'est capital parce que si on regarde notre monde, on peut se dire, finalement, Dieu, il est toujours perdant. Il y a un proverbe au Liban qui dit ça. Les musulmans le disent, chrétien, toujours perdant. Ça veut dire que la bonté, la douceur et l'amour paraissent ne pas avoir le dernier mot, mais être finalement comme le lot de ceux qui se font avoir dans la vie. Eh bien, qu'est-ce que nous révèle l'Apocalypse? Justement, qu'il n'en est pas ainsi. Que le dernier mot de toute chose sera la victoire de l'amour et la victoire d'un agneau, certes immolé, mais glorifié. Voilà ce que nous révèle l'Apocalypse, et voilà pourquoi il nous faut y revenir régulièrement. Et la seigneurie du Christ, la seigneurie de Dieu. Nous n'avons pas à dire « pauvre Jésus » comme le faisaient les filles de Jérusalem sur le chemin du calvaire. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Même dans sa passion, Jésus est glorieux et victorieux. À chaque instant, il est glorieux et victorieux. Et c'est capital pour nous que nous puissions nous appuyer sur ce Christ glorieux et victorieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous nous appuyons sur lui, mais aussi nous proclamons sa seigneurie dans notre vie. Seigneur, je veux que tu règnes en moi et je veux que tu règnes en tout. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour certains protestants très fervents. Et dans ces grandes assemblées évangéliques, eh bien, on pose cette question. Qui veut que le Seigneur soit le Seigneur de sa vie? Et les uns après les autres se lèvent. Mais se lever signifie je ne veux que rien dans moi ne m'appartienne désormais. Tout est à Dieu. Cette petite sensualité que je me réserve, cette petite ambition, cette hostilité, ce manque de pardon. Et on peut multiplier les exemples. Tout ça, Seigneur, je te l'offre. Peut-être que je recommencerai à tomber, peu importe. Mais dans mon cœur, je te fais la promesse que plus rien n'est à moi et tout est à toi. Et à ce moment-là, nous devenons des apôtres. Sinon, nous sommes tièdes. Sinon, nous ne pouvons pas annoncer le règne de Dieu. Sinon, nous ne sommes pas rayonnants. Et ça, c'est une joie très profonde. C'est la joie des apôtres dans la première lecture. Ils jugeaient une gloire d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom du Christ. Ils étaient tout joyeux à cause de cela. Tout joyeux parce que leur vie ne leur appartenait plus, mais à Dieu. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il l'a envoyé comme premier don fait aux croyants. Et l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, dit une prière eucharistique. Qu'elle soit nôtre, qu'elle soit notre foi. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, quel que soit notre âge, mais nous acceptons l'aventure de marcher à la suite de Jésus. Ah, pour les jeunes, je pense, évidemment, à l'acceptation d'une vocation. Une vocation sacerdotale et religieuse, parce que ça, c'est aussi accepter la Seigneurie du Christ. Seigneur, je ne mettrai pas dans les tiens, j'accepterai de vivre en offrant tout mon cœur, tout mon corps, toute mon intelligence à ta Seigneurie, pour que tu fasses de ma vie ce que tu en veux pour qu'elle serve à ta gloire. Et c'est une aventure magnifique. Et il ne faut pas avoir peur de l'embrasser. Aventure aussi de vivre saintement sa vocation laïque. Et là aussi, quelle aventure, mais qui disait, les vrais aventuriers, ce sont les pères de famille. C'est-à-dire celui qui accepte d'affronter le monde avec ses responsabilités laïques et à travers toute sa vie professionnelle et familiale, de faire croître le règne du Christ avec la droiture de vie. Un dernier point qui me semble important. Les apôtres, dans cet évangile, comme on l'a dit, eh bien, partagent leur pain avec Jésus. Alors, ce n'est pas simplement anecdotique et pittoresque, voilà, un déjeuner sur l'air, comme on peut dire. Non. Quand il y a un repas dans la Bible, c'est toujours important. Ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas simplement parce qu'on a faim. C'est pour faire alliance. Quand il y a un repas, c'est une alliance. Dans l'Ancien Testament, après que Dieu a transmis la loi à Moïse et Moïse au peuple, eh bien les anciens Moïse, dit le texte de l'Écriture, mangèrent avec Dieu et ils burent avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils font alliance. Et qu'est-ce que cela veut dire faire alliance? C'est-à-dire participer de l'être de celui avec qui on a fait alliance. Participer de cette divinité. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans ce repas. Les apôtres vont participer de la gloire, de la force, de la puissance du ressuscité. De sa force, oui. Quelle force extraordinaire habite les apôtres dans les actes des apôtres. Habite un saint Paul qui a connu le naufrage, qui a été lapidé, qui s'est relevé après sa lapidation, qui a été fouetté 3 ou 4 fois, les 40 fois des juifs. Rien ne l'arrête jusqu'à ce qu'il soit décapité. La force du ressuscité est en lui. Quand on voit un Paul II, quand on voit une Mère Teresa, jusqu'au dernier souffle, une vitalité extraordinaire, songeons à notre pape, à 80 ans passés. Quel extraordinaire exemple de vitalité. S'il n'y a pas en eux la force du ressuscité, ils ne pourraient rien accomplir de ce qu'ils font. C'est qu'ils témoignent qu'un autre est leur force. Un autre souffre en eux. Un autre vit en eux. Participation à la force, mais aussi participation à cette lumière, à cette science que possède le ressuscité. C'est étonnant. Jésus leur donne un ordre et aussitôt les filets sont remplis de poissons. Oui, parce que Jésus, très concrètement, sait où est-ce qu'il y a des bonnes poissons. Il sait où est le poisson, parce qu'il connaît tout. Eh bien, Jésus ne garde pas cette science pour lui. Il la transmet à Pierre, comme on l'a lu dans l'Évangile. C'est ça le sens de l'infaillibilité. C'est Jésus qui donne part à sa science et à sa contemplation, à son Église, pour que le bien des âmes puisse se faire, pour que le royaume puisse se développer. Alors, chers frères et sœurs, vraiment, acceptons, demandons à Marie qu'elle nous aide à faire, acceptons cette seigneurie du Christ dans notre vie. Réfléchissons dans un tout petit moment de silence. Qu'est-ce que je peux t'offrir, Jésus, aujourd'hui, pour que tu règnes en moi, pour que je travaille de toutes mes forces à ton règne, pour que le monde en soit plus joyeux, plus heureux. Voilà comment nous connaîtrons la vraie joie. Voilà comment nous la communiquerons au monde.